innovation technique et organisationnelle. Et je serais content de discuter avec ça et même d'avoir des critiques, mais c'est la façon dont je vois les choses à l'heure actuelle. Deux points importants. Donc, j'ai déjà parlé de la bancarisation. J'y reviendrai pour la période plus récente. Les moyens de paiement. Je vais esquisser ici, mais j'ai bien intention d'aller plus loin. Une histoire d'un aspect particulier de l'informatique bancaire qui est l'informatisation des moyens de paiement, l'histoire des moyens de paiement à travers ces techniques. La bancarisation, donc je vous ai dit qu'il y avait dans les banques de dépôt une politique d'expansion commerciale depuis les années 20, avec des phases d'expansion forte et puis des phases plus calmes. Cette expansion est liée à des changements sociaux, à l'émergence de la classe moyenne, à l'émergence du salariat et à des réglementations qui sont liées, à des changements de réglementation qui sont liés à ces changements sociaux. La réglementation que je cite ici, l'accord entre les banques et EDF, GDF, non pas GDP, c'est l'invention du prélèvement automatique, mais ça relève plutôt de l'histoire des moyens de paiement. En revanche, vous avez en 1968 les accords de Grenelle qui permettent à Pompidou et à Chirac de mettre fin aux révoltes de mai 68. Les accords de Grenelle impliquent la mensualisation et la domiciliation obligatoire des salaires, des pensions, des retraites et de pas mal de prestations sociales par virement et prélèvement. Donc ça induit mécaniquement des opérations nouvelles pour les banques. Parce que désormais, tout le monde devra être payé à travers une banque. Le travailleur manuel qui est payé en liquide avec de l'argent dans une boîte à chaussures sur la table le soir du chantier tous les jours, ça continuera à exister. Moi, ça m'est arrivé d'être payé comme ça, mais c'est vraiment pour des intérimaires ou pour. Ça devient l'exception. La règle, c'est que désormais, tous ces revenus récurrents passent par les banques. Et ça, c'est énorme. Ça encombre les banques avec une masse de traitements et de manipulations d'argent qu'elles souhaitaient en même temps. Mais donc, elles doivent faire leur possible pour bénéficier au maximum de cette bancarisation, de cette nouvelle clientèle, de ces nouvelles opérations, et pour en réduire le coût. Puisque, évidemment, plus on va vers des petits salaires, vers des petits comptes courants, vers des petites pensions, vers des petites retraites, plus moins la même opération est rentable, puisque c'est énormément d'opérations sur des tout petits montants. Donc il faut faire un énorme effort de compression de coûts internes. D'où ces accords de Grenelle sont indirectement un accélérateur d'informatisation. J'aime comparer ce type de décision politique avec ce qui se passait au même moment à la délégation à l'informatique, qui était une politique explicitement dirigée vers l'informatique, une politique industrielle de l'informatique. J'ai tendance à penser que des décisions politiques comme les accords de Grenelle ou comme ce qui avait eu lieu 10 ans avant, c'est-à-dire l'obligation pour tout véhicule à moteur de s'assurer dans les banques, ça avait fait des millions de contrats supplémentaires. Dans les assurances, des millions de contrats supplémentaires. Ces décisions politiques qui ne visent absolument pas l'informatique ont eu au moins autant d'effets sur l'informatisation du pays que la politique de la délégation informatique et du plan calcul. En tout cas, c'est des décisions importantes qui sont complètement hors du champ de vision des gens qui habituellement travaillent sur l'histoire de l'informatique. Une autre vague de décisions très importante dans les années 60, c'est en 1966, la réforme décidée par le ministre de l'économie et des finances, Michel Debré, sur le rapport d'un de ses jeunes et brillants experts, M. Abrère, inspecteur des finances, qui vise à commencer à libéraliser le système bancaire. Et les décisions de Michel Debré ont deux volets. D'une part, libérer le secteur bancaire en réduisant la barrière et la distinction entre banque d'affaires et banque de dépôt. C'est-à-dire que désormais, les banques de dépôt vont pouvoir avoir des activités d'investisseurs, de capitalistes, prêter à long terme dans des entreprises ou prendre des parts de capital. Et d'autre part, les banques d'affaires vont pouvoir créer des guichets et avoir des comptes courants et faire de la trésorerie, etc. Et puis un autre volet de la réforme de Bray, c'est une fusion entre les deux moins grandes des quatre vieilles, c'est-à-dire la fusion du Comptoir national d'escompte de Paris et de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, qui constitue la BNP en 1966, qui est l'une des plus grandes banques du monde, tout de suite. Ça devient immédiatement la plus grande banque française, avec, je crois, à l'époque, 35 000 salariés, très vite 50 000, et c'est l'une des plus grandes banques du monde. Donc une très grande banque de dépôt qui commence rapidement à faire un petit peu d'activité de banque d'affaires. Et donc, évidemment, cette libéralisation et cette création de très grandes banques donne une concurrence accrue. Les banques partent à la chasse aux clients, multiplient les agences. Nous avons tous l'âge de nous souvenir de l'époque où le Bounia au coin de la rue était remplacé par une agence bancaire, la marchande des quatre saisons était remplacée par une agence BNP, Crédit du Nord, etc. Et cette multiplication des agences, elle aussi représente un énorme investissement pour les banques, ça coûte cher. Donc là aussi, il y a une bonne raison de vouloir comprimer les coûts tout en gagnant de plus en plus de clientèle. Cette vague de libéralisation sera suivie d'une nouvelle au milieu des années 80 avec toutes les... Bon, c'est la grande vague mondiale de libéralisation ou de transformation de la réglementation qui commence aux États-Unis, qui se traduit très vite en France avec la dématérialisation des valeurs, la fin de la bourse traditionnelle telle qu'on la connaissait, y compris des coupons, et le début d'une série de libéralisations qui culmineront, qui atteindront un sommet en 1993 avec l'autorisation pour toute banque européenne de s'installer dans n'importe quel autre pays d'Europe. Donc une